Chapitre 26. La dernière marche. Quand on vint le prendre au coucher du soleil pour l'emmener, Tobie n'en voulut à personne. Le petit garçon ne l'avait pas quitté. Ils étaient restés allongés côte à côte tous les deux. Tête de lune chantait, bouche fermée, le même genre d'air que la femme pelée. Il frottait de filaments d'herbe qui lançaient des sons langoureux et il battait du pied sur le sol. Tobie cherchait ce qu'il retenait encore à la vie. Ses parents, ses basses branches, Elisha, Léo Blou, Ounis Salmen, tous l'avaient abandonné. Il n'y avait pas un seul être vivant qui se souciait encore de lui. Tobie n'attendait plus rien de rien, ni de personne. L'homme qui s'approcha n'était pas particulièrement costaud en apparence. C'était un jeune homme fin, avec des yeux paisibles. Il observa Tobie qui gisait dans la poussière. Puis, se penchant vers lui, il le souleva à bout de bras et le jeta comme un gigotin de grillon dans une hotte de toile qu'il portait sur le dos. Tobie comprit pourquoi la femme avait pris sa chemise pour un sac. Les pelés n'avaient jamais vu de chemise, mais ils étaient équipés de sacs à dos avec des manches longues qui répartissaient la charge sur les épaules et les bras. L'homme fit un signe d'adieu à Tête de Lune et se mit en marche. Tobie savait qu'il partait pour son dernier voyage. Ils avancèrent ainsi longtemps dans la forêt de plus en plus sombre. Le porteur avait un pas régulier. On ne l'entendait même pas respirer. Tobie, plié en deux dans son sac, ne bougeait pas. Par une déchirure, il avait remarqué à quelques pas derrière eux le petit garçon à la tête de lune qui les suivait discrètement. Parfois, le porteur se retournait et criait à l'enfant « Va dans ton épi, brin de lin, garde-toi des grenouilles !» Et puis, grenouille, toujours cette langue étrange. Peut-être que Tête de lune ne comprenait pas mieux que Tobie, car chaque fois, après quelques minutes, il réapparaissait derrière eux, entre les lianes au détour d'un bosquet d'herbe. « Laisse-nous, brin de lin, va voir ta sœur, elle va te faire des crêpes. » Tobie sursauta dans son sac. « Des crêpes ?» Il ne pouvait s'empêcher de penser à Elisha. Il essuya son œil sur la toile rugueuse. Le souvenir du miel fondu mouilla sa langue. Non, il ne connaîtrait plus le goût du bonheur. Le terrain descendait en pente douce. Tobie remarqua que coulait partout une fine couche d'eau. L'homme avait allumé une lanterne. La forêt se reflétait sur le sol inondé. Les herbes paraissaient infinies. Tobie se sentit envahir par le mystère de ce nouveau monde. Son père avait raison. L'arbre n'était pas le seul horizon des hommes. Il existait aussi cette planète plate couverte de jungle, et peut-être d'autres mondes ailleurs, ou dans les étoiles. Tobie allait mourir avec ce secret. Désormais, il ne se défendrait plus. Il ne voulait plus se battre. Il se laissait porter dans un sac, ballotté comme une poupée habillée de boue. Il ne résistait plus. Il était déjà parti. Il avait franchi toutes les limites de la vie. Parfois, par mégarde, il laissait un souvenir l'envahir. La voix de sa mère, le craquement des bourgeons au printemps, le visage des sœurs à celles d'or, les mains de son père sur l'arrière de son cou. Ou son dernier jour avec Elisha. C'était la veille du pique-nique de Bernie Calzan. Une journée de printemps transparente et tiède. Ils étaient au sommet de la falaise du lac. Là-haut, la mousse s'avançait jusqu'au vide. Tobie et Elisha avaient grimpé dans les frondaisons de mousse verte et y étaient restés perchés. Ce matin-là, le miroir du lac était troublé par deux puces d'eau qui semblaient faire un balai amoureux. L'une prenait le large, boudeuse, l'autre, lentement, l'air de rien, s'en approchait en dessinant des boucles d'eau. Parfois, elle plongeait et réapparaissait plus loin en s'ébrouant. La première lui répondait enfin par un mouvement des pattes qui ressemblait à un battement de cils. et le numéro de charme recommençait. Toby et Elisha observaient en souriant, perchés sur leur bosquet de mousse. « Ça me manquera, » dit Toby. Elisha sursauta. Elle braqua son regard sur Toby. « Quand ?» Toby comprit qu'il n'aurait pas dû ouvrir la bouche. « Quand ça te manquera » répéta-t-elle. « Si je fais sortir mes parents, » dit-il, « il faudra peut-être que l'on parte très loin pour un temps. »« Pour un temps ?» grogna Elisha. « Et je me lève chaque matin pour ça ? Préparer ton départ ? Ben merci, Toby. » Elle détourna brutalement le regard. Toby essayait de s'expliquer. « Comprends-moi, je ne vais pas rester dans une caverne avec mes parents pendant 10 ans. Il faut vivre. »« Mais pars, s'il faut que tu sois loin pour commencer à vivre, pars, personne ne te retient. » Elle cacha le bas de son visage dans son col, ses yeux fixés à un horizon imaginaire. Elle avait le regard des jours tristes, le masque sauvage d'Elisha. Toby laissa couler un silence qui fit monter entre eux un torrent infranchissable. « Si je pars, je reviendrai, je te le jure, je reviendrai. » Il s'arrêta. « Et ?» demanda Elisha d'une voix indifférente. « Et je te retrouverai. Qu'est-ce que ça te fait ? » lança-t-elle comme elle lui aurait jeté un bâton. Nouveau silence. Toby sentait une boule monter dans son estomac. « Ce que ça me fait, tu veux savoir ?» Mais elle ne peut en dire plus. La boule s'était coincée dans sa gorge. Elisha comprit ce qu'elle avait provoqué, mais elle avait trop mal pour revenir en arrière. Elle aurait voulu demander pardon, dire seulement sa tristesse, mais elle s'entendit balbutier. « J'ai pas beaucoup d'amis, tu sais. Un seul, en te comptant. » Et elle se laissa dégringoler jusqu'au pied de la mousse. Toby la suivit. Regardant bondir devant lui, comme tant de fois à travers l'arbre, Toby sentit entre eux quelque chose de nouveau. Un lien inconnu qui précipitait sa respiration et mettait son cœur à la course. Elle détalait sur l'écorce, ne se retournant jamais, s'élançant au-dessus des crevasses. Toby, derrière elle, fendait l'air. Et ses terres aussi avaient une densité différente. Ils se jetaient tous les deux dans la pente sans rien retenir de leur élan. Le lac grandissait sous leurs yeux. Leurs pieds nus faisaient voler derrière eux la poudre de lichen. Ils arrivèrent sur la plage, pantelant, suffoquant. Debout, pliés en deux, les mains sur les genoux, ils se regardèrent enfin, cherchant à retrouver leur souffle. Leurs yeux ne se quittaient pas. Ils ne disaient rien. Ils laissaient se tendre ce fil précieux qu'ils venaient de surprendre. Leur tête tournait un peu. L'air semblait trop riche, comme un fumet de soupe. Ils se retrouvèrent dos à dos, s'appuyant l'un sur l'autre pour rechercher leur équilibre. Leurs bras ballants se touchaient. Alors, de l'autre côté du lac, ils aperçurent Isha qui faisait de grands gestes en les appelant. Mais ils restèrent encore quelques secondes dos à dos. « Moi aussi, » dit seulement Toby. Il ne répondait à rien. Elisha n'avait pas prononcé une parole. Mais ces deux mots ne surprirent aucun des deux. Ils scellaient simplement un pacte silencieux. Elle dit à son tour. « Moi aussi. » Elisha s'échappa la première. Au fond de son sac, Toby écrasa une nouvelle larme contre la toile de lin. Il parvenait dans une forêt moins dense. Le clapotis de chaque pas du porteur s'accompagnait d'une vaguelette qui venait se briser sur la base des grosses herbes. Toby scrutait la pénombre à travers la fente du sac. Il lui semblait parfois surprendre des regards jaillissants dans la nuit. Tête de lune ne suivait plus. Encore un que Toby ne reverrait jamais. C'était la loi de sa vie. Les gens qu'il aimait s'évaporaient, et il n'en restait plus qu'une poussière d'or qui lui piquait les yeux. La nuit s'était emparée de la forêt. C'était une nuit différente de celle de l'arbre, une nuit grouillante de bruit et de reflets mystérieux, une nuit chaude. Ils s'enfoncèrent ainsi pendant un temps impossible à mesurer. L'eau devenait plus profonde. Le porteur en avait jusqu'à la taille. Il poussait devant lui un flotteur sur lequel vacillait sa lanterne. Ah ! Une énorme masse tomba du ciel devant eux, provoquant une vague vertigineuse. Hurlant d'épouvante, le porteur jeta le sac à quelques pas de lui et réussit à s'accrocher à une herbe. Le sac où se trouvait Toby flottait. La vague le secoua dans tous les sens, mais il restait en surface. Un dernier mouvement de l'eau le coinça entre deux racines d'herbe. Reprenant conscience, les mains et les pieds toujours ficelés, Toby parvint à entrouvrir avec le nez la déchirure du sac. Il découvrit, comme dans un rêve, ce qui était tombé du ciel. C'était une masse animée dont il aperçut d'abord l'ombre projetée sur la futaie. Une sorte de monstre ramassé sur lui-même avec deux grosses pattes cassées en deux. Il voyait maintenant les yeux impénétrables de la bête qui fixait le porteur. Celui-ci, courageux, ne fuyait pas. La peau du monstre était brillante et granuleuse. Il mesurait peut-être 50 fois la taille d'un scarabée ou d'une limace. L'horreur ne dura qu'un instant. Le monstre projeta une langue démesurée qui happa le pauvre porteur. On n'entendit plus qu'un grand cri. Et le pelé disparut en gesticulant, bras et jambes écartés, dans la bouche large comme un tunnel. Toby croisa une dernière fois le regard brûlant de l'homme. Au fond de son sac, Toby jura qu'il ne désirerait plus jamais la mort. La grenouille, car c'en était une, fit un petit bond vers Toby et regarda assez longuement cette poche de toile trempée. Les yeux globuleux venaient presque toucher l'ouverture du sac. Toby ne bougeait pas d'un cil. Parfois, il voyait poindre un bout de langue gluante entre les mâchoires vertes. L'animal produisit un éclatement de gorge qui ressemblait au tonnerre. Toby tressaillit, et ce léger mouvement accompagné d'un retour de vague suffit à inonder le sac qui très lentement s'enfonça dans l'eau. Abandonnant sa proie à regret, la terrible bête poussa encore une fois son cri de guerre et s'envola. Toby avait disparu sous la surface de l'eau. C'était peut-être la 5e fois que Toby croyait mourir, mais cette fois c'était sûrement la bonne. L'enfant, pieds et mains liés, enfermé dans un sac que l'on laisse couler dans l'eau au fond d'une forêt, en ayant pris soin de faire dévorer son seul accompagnateur par une grenouille, n'a pas de grande chance de s'en sortir. Toby, entièrement immergé dans le noir total, incapable de respirer, continuait pourtant à compter chaque seconde, comme si tout pouvait encore arriver. Voici que, comme par hasard, il n'avait plus envie de mourir. C'est toujours ainsi quand c'est trop tard, il faut le savoir. Toby fut à peine surpris quand il sentit son sac être traîné quelques secondes, s'élever puis se vider progressivement comme une outre. Il avala une grande goulée d'air pur qui lui envahit les poumons. Il vit alors une toute petite main venir fouiller le sac et lui chatouiller le menton. « C'est moi !» Toby connaissait cette voix. Le sac s'ouvrit. Ce qu'il vit lui emplit les yeux d'une grande douceur. C'était Tête de Lune. Le petit pelé à la ceinture jaune les avait suivis pas à pas depuis le début. Aucun autre visage n'aurait pu rassurer autant Toby. Un enfant. C'était sûrement ce qui restait le moins mauvais sous le ciel. « La grenouille est méchante, » dit-il. « Elle a mangé Vidoff. » Toby pensa à son pauvre porteur. Il s'appelait donc Vidoff. Toby demanda. « Il avait une famille ?»« Non. Il voulait se marier avec Ilaya. » Toby mesura encore une fois la fragilité de cette vie dans l'herbe. Il ne fallait tenir à rien. Le destin des pelés était aussi hasardeux que l'aventure des grains de pollen. Tête de Lune avait approché la lampe qui, par miracle, ne s'était pas éteinte sur son flotteur. Il conclut. Ilaya va pleurer. En effet, il n'avait rien d'autre à dire. Tête de Lune avait la peau luisante. Toute la boue avait été lavée par l'eau. On voyait maintenant ses épaules très blanches. Il enleva les liens de Toby qui put se déplier hors du sac. Toby se tenait debout, le buste au-dessus de l'eau. Le petit garçon lui dit « Tu peux partir. Attends le matin, ton havre est par là. Et toi ?
Moi ?
Je retourne consoler Ilaya.
Tu n'as pas peur ? Quel âge tu as ?»
Tête de Lune se fendit d'un quart de sourire. « Si je me fais attraper par un lézard ou une grenouille, Ilaya pleurera un peu plus. Alors, je vais faire attention. »«
Qui est Ilaya ?»
demanda Toby.
« C'est ma grande sœur. »
À l'endroit où ils étaient, l'eau allait jusqu'aux hanches de Toby. Mais Tête de Lune en avait au moins jusqu'aux épaules. C'était un miracle que le petit garçon ait pu arriver jusque-là.
« Pourquoi tu nous as suivis ?»
demanda Toby.
« Je sais pas. J'ai pas pensé. »
Et il s'éloigna en disant « Adieu, petit arbre. » Toby fit un pas dans la direction que lui avait indiqué Tête de Lune. Il poussa la lampe devant lui, mais aussitôt, elle grésilla et s'éteignit. La nuit était rigoureusement noire. À nouveau, Toby croyait voir des yeux clignoter dans l'obscurité. Jamais il n'avait ressenti une telle solitude. Un long moment passa. Des bruits humides glissaient sur la forêt d'herbe.
« J'ai peur !»
La voix avait surgi, tout contre lui. C'était Tête de Lune. Et cette peur si naturelle d'un petit garçon fit s'envoler toutes les angoisses de Toby. Il reçut une immense force de la petite main froide qui se blottit dans la sienne. Toby n'avait jamais été le grand frère de personne. Il le devint un peu à ce moment-là. Il se sentait responsable de cet enfant. Il ne lâcherait pas cette main tant qu'elle ne serait pas accrochée au cou d'une sœur ou d'une mère. Cette simple responsabilité redonnait une direction à la vie de Toby Lolness. Il n'était plus ce petit bout de tartine flottant dans un jus d'écorce noire, malmené par la vie.
« N'aie pas peur, je te ramène chez toi. »
Il fit grimper l'enfant sur ses épaules et s'enfonça dans le marais.